en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Monsieur le conseiller représentant le président de la République, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le chancelier, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, mesdames, messieurs, je vous remercie au nom de mes confrères de l'Académie des Beaux-Arts pour votre présence sous la coupole à l'occasion de notre séance publique annuelle. Il me faut à présent évoquer la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année. Il s'agit de notre confrère associé étranger, l'architecte japonais Kenzo Tange, et d'un correspondant de la section d'architecture, Jean Roray. L'architecte japonais Kenzo Tange s'est éteint le 22 mars 2005. Il fut un des grands reconstructeurs du Japon d'après-guerre. Pendant les années 1950, il fut très influencé par Le Corbusier ainsi que par l'architecture traditionnelle japonaise. De cette époque datent de grands bâtiments publics, salles de réception, bibliothèques, hôtels de ville. À partir de 1960, Kenzo Tange est devenu davantage urbaniste qu'architecte, concevant notamment un plan d'ensemble pour l'agrandissement de Tokyo sur sa baie. La décennie suivante verra les réalisations de Kenzo Tange se multiplier dans de nombreux sites. Il est le premier japonais à recevoir en 1987 le prestigieux Pritzker Architecture Prize, l'équivalent du prix Nobel pour l'architecture. En France, Kenzo Tange a conçu la réorganisation complète de la place d'Italie à Paris de 1985 à 1991. Les membres de l'Académie des Beaux-Arts l'avaient élu associé étranger le 18 mai 1983. Le 26 mai 2004, l'Académie des Beaux-Arts procéda à l'élection de nouveaux correspondants, notamment dans la section d'architecture. L'un d'entre eux était Jean Roray, que nous n'avons que très peu connu, puisqu'il s'est éteint le 9 août 2005. Architecte, il a été responsable de nombreux grands chantiers, tels que les Tours Nobel, Tours Gannes, Maine-Montparnasse, les aéroports d'Orly-Sud et Orly-Ouest, les facultés et la faculté de droit de la rue d'Assas, celle de Dauphine, et de nombreux ponts, dont celui de Saint-Nazaire. Maintenant, je vous propose d'entendre une pièce d'Henri Dutilleux. Il s'agit de deux des trois strophes sur le nom de Zacher, interprétées au violoncelle par Henri de Marquet, qui est lauréat du prix de musique de la Fondation Simone Echino del Duca, Institut de France. Donc, trois strophes sur le nom de Zacher, Andante sostenuto, vivace calmo a tempo.
Thank you. Après ce beau moment de violoncelle exécuté par M. Henri de Marquette et durant cette séance solennelle, le vice-président de l'Académie des Beaux-Arts a proclamé les récompenses attribuées par l'Académie. Chaque section de l'Académie des Beaux-Arts a décerné des prix, peinture, sculpture, composition musicale, musique, architecture, chant choral, dessin. Elle a aussi proclamé le palmarès des lauréats des concours et distribué quelques bourses à de jeunes artistes.
Après ces résultats, je vous invite maintenant à écouter le chœur Les Éléments, sous la direction de Joël Subiette, dans cette chanson pour chœur mixte a cappella de Francis Poulenc.
La 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 la
La parole est à présent à M. Arnaud Dautrive, notre secrétaire perpétuel. Le thème de son discours sera le sourire dans l'art.
Merci. Tout à coup, alors qu'elle est peut-être encore à 10 pas de moi, venant en sens inverse, je vois une jeune femme très pauvrement vêtue, qui, elle aussi, me voit ou m'a vue. Elle va, la tête haute, contrairement à tous les autres passants, si frêle qu'elle se pose à peine en marchant. Un sourire erre peut-être sur son visage. André Breton, Nadja. La représentation des dispositions de l'âme, des sentiments et des passions constitue l'une des quêtes majeures de l'art. Le sourire, comme expression privilégiée de l'humeur et de l'esprit, occupe donc une place particulière dans son histoire et dans ses œuvres. Ce mouvement singulier qui anime le visage pose cependant un certain nombre de problèmes. Il est, avant tout, difficile à caractériser. Il serait vain et fastidieux, vous en conviendrez, de tenter un inventaire de toutes ces formes. Qu'il me suffise de rappeler que le sourire appartient aux anges comme aux malins, et chacun pourra imaginer toutes les nuances nécessaires à qui se risque à vouloir en saisir le mystère. Il est, par ailleurs, difficile à représenter. Comment, en effet, ne pas en trahir la subtilité ? Comment en matérialiser la fugacité ? Comment, autrement dit, tailler cet imperceptible mouvement dans la pierre, le fixer au moyen de lignes et de couleurs ? Autant reprendre le programme poétique de Rimbaud et se donner pour objectif de fixer de vertige, et n'en déplaise à Charles Blanc, sa grammaire des arts du dessin, montrant comment utiliser la direction symbolique des lignes pour représenter les expressions du visage n'y suffit pas. En effet, le sourire, contrairement au rire, ne se laisse pas apprivoiser si facilement. Ce presque rien, ce signe éphémère de l'harmonie et du trouble, du sacré et du profane, ne fait qu'illuminer un instant le visage du modèle. Et si l'artiste a l'ambition de capturer ce mouvement vivant, c'est qu'il veut l'impossible, comme le dit si justement Berthe Morisot. Fixer quelque chose de ce qui passe, oh, quelque chose, la moindre des choses, un sourire, une fleur, cette ambition-là est encore démesurée. Ce que Francis Bacon confirme, révélant au cours d'un entretien n'être jamais parvenu, malgré son désir, à peindre le sourire. Pour autant, les artistes n'ont pas renoncé à cette quête, car le sourire est sans doute le signe qui résume le mieux toutes les émotions humaines. Données sensibles, comme la rougeur ou les larmes, le sourire constitue l'expression immédiate et nuancée du vécu. Les dictionnaires définissent celui-ci comme un rire léger, un mouvement peu appuyé et subtil de la bouche et des yeux, qui dit la tristesse ou la joie, la bienveillance ou le mépris, la franchise ou la duplicité. Au contraire du rire, aucune brusquerie dans le sourire, aucune déformation des traits. Le sourire peint, selon l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, les mouvements de l'âme doux et tranquille et produit un agrément dans les jolies personnes. Cette définition a l'intérêt de mettre immédiatement en évidence les deux dimensions du sourire. D'abord, centré sur soi-même. Il exprime ce que l'on ressent. Susceptible d'être reçu par autrui, il devient l'instrument privilégié de la communication humaine. Nous savons qu'il est spontané chez le nourrisson qui possède dans son patrimoine génétique cette capacité à faire réagir les muscles faciaux. Dès le premier trimestre de vie, le sourire est motivé par la vue du visage humain, la configuration yeux, nez, bouche, constituant, selon René Spitz, un déclencheur de ce comportement. Le sourire ne se contente plus alors de traduire un état de bien-être, mais dessine les prémices de la relation et de l'échange. Réponse sociale de sourire au sourire de l'autre, qui s'affirme dès le 8e mois, avec la reconnaissance de la mère à qui ce sourire est désormais plus particulièrement destiné. L'un des premiers et des plus longs sourires de l'histoire de l'art, le sourire de Bouddha, présente bien ces deux facettes. Sourire intérieur, signe de sérénité, mais aussi sourire adressé à autrui, à l'image de son poing fermé sur la sagesse universelle et de sa main ouverte, prodiguant les vérités nécessaires aux hommes. Le sourire spirituel et mystique du bienheureux, assis en position de méditation ou couché sous le figuier sacré, dit l'illumination de celui qui, derrière ses yeux clos, entrevoit les béatitudes éternelles du nirvana. La représentation de ce sourire culmine dans l'arc-mère, comme en témoignent les deux chefs-d'œuvre dans le style du Bayon, conservé au musée Guimet. Le sourire doux et paisible du roi Javayarman ou celui magnifique, serein et épanoui du Bouddha, protégé par le Naga, sont d'une beauté remarquable. Le dessin des lèvres pleines et légèrement relevées contrarie la ligne des lobes d'oreilles étirées par le poids d'ornements désormais abandonné. Le sourire semble communiquer son mouvement aérien aux yeux, finement plissés dans le grès comme des flammes. Un souffle extatique anime le visage, comme si la source lumineuse provenait de l'intérieur de la statue. Ces œuvres d'exception exercent un pouvoir de fascination qui ne se dément pas, comme en témoigne par exemple la série de photographies rapportées d'Angkor par François Fontaine. La flamme intérieure et mystique anime donc les statues du Bouddha. Mais c'est pour mieux éclairer les hommes. La splendeur de ce sourire exprime en effet la sagesse d'un homme de ce monde. En route vers l'éveil, le Bouddha se garde de mépriser pour autant un bonheur terrestre, tranquille et mesuré, une voix moyenne et douce. Après tout, la condition d'homme est la plus difficile à atteindre et seuls les hommes peuvent accéder au nirvana. Il s'agit de communiquer par le sourire, le détachement et la voix de la méditation. C'est en tout cas ce que nous enseigne cette légende. Devant une assemblée de moines réunis pour l'écouter prêcher, l'éveillé garde le silence et se contente de cueillir une fleur. Je vous laisse imaginer la surprise des moines, rapidement désemparés par cette attitude. L'un d'eux fait pourtant exception en souriant pour répondre au geste du Bouddha. Le maître remarque ce sourire et considère aussitôt qu'il a atteint son but. Il déclare devant l'assemblée que le moine a suivi l'enseignement. Sourire spirituel, sourire humain, c'est cette même expression que nous lisons sur le visage des statues grecques archaïques. Christian Bartillat confie dans son livre consacré au sourire être revenu à de nombreuses reprises, admirer le cou rose d'Athènes, fasciné par l'intime mélange idéal et terrestre qui se dégage de la statue. Il règne encore ici un peu de la morgue des dieux, dit-il, mais c'est la sérénité de l'homme qui a vaincu les puissances de la nuit qui s'exprime. Le sourire de la statue, en se diffusant dans le corps tout entier, recèle encore l'assise du mysticisme et déjà beaucoup de grâce. Éliphore confirme, ces Apollons sont des athlètes qui ont le sourire de la victoire, ce que nous vérifions en admirant la tête raillée de Copenhague ou encore le visage du cavalier rampin conservé au Louvre. Cheveux et barbes finement sculptés, délicatesse des traits, contraste des plans autour des yeux et de la bouche qui mettent en valeur le sourire. Quant aux corailles qui escortent Athéna ou Déméter, elles ont toujours, selon Éliphore, le sourire de l'amour. Une force invincible rayonne d'elles, les environne et les accompagne d'une rumeur de désir. Elles sont belles, affirme-t-il, et il ajoute, nous les aimons d'une tendresse qui ne peut s'épuiser. Et comme lui, nous sommes charmés par la ravissante Corée au péplos de l'Acropole, par ses longs cheveux ondulés, par son sourire de miel. Et pourtant, il a été souvent reproché à ces statues archaïques leur sourire générique. C'est Renan, par exemple, qui confie dans son voyage d'Athènes avoir fui avec chagrin ses yeux bridés, ce sourire uniforme et indéfini. En fait, l'écrivain, comme bien d'autres, commet l'erreur de mesurer les qualités artistiques des œuvres de la seconde moitié du VIe siècle à l'aune de la sculpture classique. Or, il ne s'agit pas pour les artistes de cette époque de reproduire des traits physiques précis, de rechercher la ressemblance, autrement dit, d'individualiser les figures humaines. Au contraire, il s'agit à travers la sculpture de reconstruire l'idéal d'un corps, d'un visage en accord avec les dieux. C'est pourquoi l'Apollon du Pirée se confond avec les jeunes athlètes qui peuplent son sanctuaire et Artémis avec ses servantes. Et le sourire archaïque qui éclaire indifféremment tous ces visages est le signe infiniment gracieux d'un temps où les hommes et les dieux se confondent. De même, le sourire du Bouddha est-il un archétype, un signe de spiritualité universelle à travers le monde bouddhique. L'artiste ne se pose pas davantage le problème de la ressemblance et les traits généraux du Bouddha, fixés dès le VIe siècle, ont donc peu varié dans le temps et dans l'espace. Le portrait du maître est simplement traité de manière à conférer l'attitude, les gestes, l'expression convenant à son rôle dans une situation donnée. Comme sur le visage des statues grecques archaïques, il n'est pas question de retrouver l'expression d'une personne en particulier. Ce que résume magistralement Malraux dans le musée imaginaire. L'artiste des grands styles religieux, presque toujours anonyme, semble plus possédé par ses dieux que maître de son œuvre. Surtout, la signification capitale de son art lui appartient à peine car elle appartient d'abord à sa foi. Son art n'est pas l'expression d'une vision, mais de l'invisible. À partir de l'époque classique en Grèce, la sculpture ou la peinture ne prétendent plus symboliser l'idéal, mais imiter la nature. Dès lors, se pose pour l'artiste le problème de la ressemblance. Les Phèbes de Critios inaugurent cette nouvelle esthétique par une pose plus souple, une esquisse de mouvement, le réalisme des traits du visage. L'intention est claire. Il s'agit désormais d'imiter l'athlète de la palestre, de suggérer un caractère, d'explorer la palette des sentiments humains. Or, comme nous l'avons vu, le sourire en est l'expression la plus subtile. Comment sculpter sans la trahir la réalité de ce mouvement ineffable et unique? Peut-être cette difficulté constitue-t-elle une explication. Constatons en tout cas que la tendance au réalisme coïncide dès le Ve siècle avec le style sévère et avec la disparition du sourire. Délicat et fragile, celui-ci s'évanouit en effet vers 480 sur les lèvres de la boudeuse et de l'effet blond de l'acropole. Tendance qui s'affirme ensuite avec la mode du portrait. Je pense par exemple au portrait d'appartement et au portrait funéraire du Fayou. Le sourire disparaît donc au Ve siècle. En Occident, et l'art chrétien ne le sert guère par la suite, malgré le motif de la nativité. Il faut donc attendre la cathédrale du sourire et cet ange de Reims si miraculeusement préservé. La sculpture gothique, en symbolisant la réconciliation de l'homme et de Dieu, incarnée par le rachat de l'humanité souffrante, rejoint l'esthétique archaïque et Malraux, avec justesse, évoque la connivence bouleversante par-delà les siècles de ce sourire spirituel. Placé côte à côte, l'ange au sourire de Reims et une tête de Bouddha n'impose-t-il pas la présence d'un autre monde ? En peinture, la représentation des sentiments, des humeurs et des états d'âme s'affirme à partir de la seconde moitié du Quattrocento en Italie. Dans l'œuvre de Jean Van Eyck, au début du XVe siècle, la notion de mimésis est certes essentielle, comme le montre la minutie de la représentation qui restitue avec fidélité les traits du modèle jusqu'aux plus petits accidents de la peau. Pourtant, si nous observons le visage du chancelier Rollin, nous constatons que celui-ci n'est pas porteur de sentiments. Nous dirions qu'il est davantage traité comme une nature morte. Et si nous voulons le connaître un peu, nous devons nous fier plutôt à sa mise à l'arrière-plan symbolique du tableau. Il faut tout l'élan de la nouvelle confiance en l'être humain portée par l'idéal humaniste pour imposer le visage comme le lieu privilégié de l'expression spirituelle. Plus question dès lors de continuer, de copier la statuaire antique ou de reconstruire idéalement la figure humaine. Les ateliers des maîtres de Florence où étudie le jeune Léonard de Vinci se peuple de modèles vivants. Le peintre étudie l'expression du sourire en s'appuyant sur l'observation anatomique. Il y ajoute ses connaissances scientifiques et approfondit cette recherche dans toute son œuvre. Le sourire éclaire déjà ses toiles de jeunesse. La Madone aux fleurs, au chat, la Madone Lita, il illumine encore les trois dernières œuvres apportées en France. Le doux sourire de la Vierge et celui plus éclatant de Sainte-Anne, le troublant sourire de Saint-Jean-Baptiste, montrant le ciel d'où viendra le salut et bien sûr celui ineffable de la Joconde. Que n'a-t-on dit, écrit sur ce sourire plein de nuit, selon la si jolie formule des Goncourt ? L'expression presque invisible est à peine esquissée par la pointe d'ombre au coin des lèvres et des yeux, profond sous les sourcils absents. Cette impression de fugacité est encore renforcée par le visage lisse et dépourvu de contractions musculaires. aucun bijou, aucun ornement de tête, enfin, pour distraire le regard du spectateur, littéralement aimanté par l'expression de la bouche et des yeux. Ajoutons à ça les ombres foncées du paysage montagneux, les contours estompés par le fameux sfumato, et nous pensons connaître l'essentiel des ingrédients du mystère sourire, du mystérieux sourire. En réalité, l'expression sibylline et réservée de la jeune femme, conforme aux usages très précis de la haute société florentine, n'est pas si surprenante. Souvenez-vous que Baldassare Castiglione, dans son livre du courtisan, insiste beaucoup sur la nécessité de maîtriser ses sentiments, d'adopter des manières fines et mesurées. Et ce contrôle des émotions est parfaitement visible dans la pose réservée et prudente de Mona Lisa. Bras gauche reposant sereinement sur la coudoir du fauteuil, tandis que la main droite dissimule la gauche. Ce mouvement éthéré qui flotte sur le visage harmonieux de la Joconde, débarrassé du désordre des passions, permet justement au peintre d'en révéler la beauté idéale. Conformément à la pensée néoplatonicienne diffusée par Marcille Fitchin, Léonard de Vinci semble établir dans son célèbre tableau une correspondance entre le monde sensible et le monde intelligible. Et en ce sens, le sourire équivoque de Mona Lisa nous apparaît bien comme un sourire archaïque. Selon le mot d'Oscar Wilde, c'est-à-dire qu'à l'image des statues du VIe siècle, il rappelle ce monde uni et fragile où l'homme n'est pas séparé du divin. Cette harmonie, nous la retrouvons quelquefois en peinture après la Renaissance, par exemple dans le sourire infiniment charmant des jeunes femmes de Vermeer. Le peintre a représenté cette émotion délicate dans toutes ses nuances, y compris spirituel. Et si je pense au sourire surpris de la jeune femme à la lettre, au sourire élégant et confiant de la dame debout au virginal sous le portrait de Cupidon, je pense surtout au sourire qui brille dans les yeux de la jeune femme Alighieri. Sereine, au centre d'un monde ordonné, la jeune femme laisse errer son regard dans le lointain. De sa main droite, elle ouvre la fenêtre, tandis que la gauche tient l'anse du vase. Les bras ainsi ouverts, elle semble accueillir la lumière qui filtre à travers les vitraux. Cette clarté l'enveloppe, estompant les contours bleus de sa robe, révélant le blanc de sa coiffe de lin, les reflets jaunes de sa jaquette. Les teintes douces éclairent son visage et font rayonner ses pupilles. C'est ainsi que le sourire des modèles de Vermeer, tout en exprimant l'essentiel des émotions humaines, transcende la réalité. N'est-ce pas ainsi que nous percevons le sourire céleste des mariés de Chagall ? À partir de l'époque moderne, les artistes s'attachent à explorer toute la palette des sentiments humains et donnent surtout à voir un sourire profane. Le goût pour la physiognomonie, et pour l'étude et la peinture des caractères s'affirme en effet dans le portrait à partir du VIIe siècle, comme en témoigne par exemple l'œuvre de Poussin. Charles Lebrun, directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, prononce devant cette académie deux conférences sur l'art de dessiner les passions, et dans plus de 90 autoportraits, Rembrandt exprime sur son propre visage l'altération de ses traits selon toute l'échelle des émotions. Les scènes de la vie quotidienne mettent souvent en scène des personnages enjoués, désormais occupés de leur seule gaieté, comme sur les toiles de Franz Hals, avec la bohémienne ou le bouffon aux luttes. Rubens compose des portraits souriants de ses deux épouses, sourire tendre, doux et modeste d'Isabelle Brandt, jeune épousée sous la tunnelle de Chèvrefeuille, sourire éclatant et sensuel d'Hélène Fourment sur le seuil de sa demeure d'Anvers. Ce sourire terrestre pourrait bien sûr nous conduire à Boucher, à Fragonard, à Watteau. Il nous conduit à Renoir, dont les sourires pleins et dépourvus de mièvrerie accompagnent toute l'œuvre. Pris sur le vif, à l'ombre des chapeaux des femmes, sous la lumière filtrée par les arbres, ce sont des sourires doux, épanouis, frondeurs. Les mères à l'enfant sourient comme les fillettes à l'arrosoir, au faucon, au chapeau épinglé. Les jeunes filles saisies dans leur conversation sourient joyeusement à la sortie du conservatoire. Les promeneuses aussi, même sous la pluie, comme les danseuses lèvres ouvertes. Les baigneuses nacrées enfin et les amoureuses à robe blanche sourient avec bonheur et sensualité. Avec l'œuvre de Renoir s'impose l'expression infiniment vivante et délicate d'une émotion humaine qui transfigure le quotidien à un moment où la subtilité et l'authenticité de cette expression est précisément en péril. En effet, avec la propagation de la photographie, moyen de reproduction plus commode, plus rapide, plus exact, le portrait peint disparaît. Or, le photographe amateur ne sait pas reconstruire l'air du modèle comme le fait le peintre. Éviter les sourires factices devient dès lors une quête exorbitante. Comme le dit Barthes dans La Chambre claire, il évoque à ce propos une expérience de pose qui nous permet de mieux comprendre l'ampleur de l'entreprise. Je décide de laisser flotter sur mes lèvres et dans mes yeux un léger sourire que je voudrais indéfinissable, où je donnerai à lire les qualités de ma nature. Je voudrais en somme que mon image mobile, cahotée entre 1000 photos changeantes au gré des situations, des âges, coïncide toujours avec mon moi. Or, malgré ses efforts, explique-t-il, le résultat le déçoit le plus souvent parce que la photographie emprisonne en une image unique cette expression, par essence fugitive de la bouche et des yeux. Ce faisant, le sourire privé du mouvement qui l'accompagne se fige en caricature. Autrement dit, la photographie d'amateur révèle une mimique là où il faudrait restituer dans toutes ses nuances une texture morale. Le grand portraitiste serait, selon Barthes, celui qui saurait peindre comme le Titien l'air du modèle, dessiner comme Clouet l'essence précieuse de son individu, et saisir ainsi l'évanescence de son sourire. Évidemment, et avec quel éclat, les grands maîtres de la photographie échappent à cette critique. Qu'il me suffise d'évoquer les sourires anonymes des enfants de Boubin ou de Dieuzède, ou les sourires célèbres de Catherine Deneuve par Man Ray et de Jeanne Moreau par Jean Lussieff. Et il me faudrait encore parler, mais ce serait l'objet d'un autre discours, des sourires mythiques du cinéma, ceux de Chaplin, d'Ava Gardner et de Marilyn Monroe. Il n'empêche, la photographie médiatique a pour effet le plus souvent de dévaloriser le sourire. Avec la multiplication des tirages, il n'est plus question de transmettre un objet unique. La standardisation, en permettant de dévoiler en tout lieu, sous les yeux de tous, ce qui à l'origine devait n'être que rarement révélé, fait disparaître la valeur unique de l'œuvre d'art authentique. Cela favorise ce que Walter Benjamin appelle la déchéance de l'aura. Cette valeur magique de représentation sacrée qui transparaît encore dans les formes les plus profanes de la beauté, développée à la Renaissance. Si nous ajoutons à cela les injonctions fortes de la société contemporaine, il faut sourire au travail, dans la vie publique, à la télévision. Nous comprenons que via la médiatisation, ce reflet secret de nous-mêmes ne fasse plus signe. Expression désormais imposée de la vie sociale, le sourire intime et authentique a cédé la place au sourire factice et promotionnel. Comment, dans un tel contexte de banalisation, l'art peut-il continuer de représenter le sourire et de rendre compte de la singularité des états d'âme? Certains artistes répondent radicalement, comme Malevitch, en tournant le dos à tous les visages, où sont fourrés, je cite, une paire d'yeux et un sourire. Il oppose à l'ancien art d'imitation la surface picturale. Il dit ainsi retrouver une matière moins usée, plus vibrante, plus signifiante, à l'image de son carré noir sur fond blanc, cet enfant royal, plein de vie. D'autres peintres, au contraire, répondent à la standardisation en détournant celle-ci au profit de l'art. C'est par la répétition du motif qu'Andy Warhol parvient à restituer au portrait sa force magique. Le suicide de Marilyn Monroe incite l'artiste à utiliser le procédé de la duplication. Il convertit une photographie des années 50 en sérigraphie et reproduit plusieurs centaines de fois le sourire rouge ou bleu. Ce faisant, l'artiste métamorphose le portrait de la star en effigie et restitue à celui-ci sa fonction commémorative. Principe de répétition incantatoire qu'utilise Christian Botlansky dans ses installations consacrées à la mémoire. Ainsi, Monument Odessa présente des portraits agrandis d'enfants juifs, morts dans les camps, les sourires suspendus, simplement éclairés par des ampoules électriques, invitent par leur multiplication obsédante au recueillement et à la méditation. L'artiste renoue ainsi avec le pouvoir cultuel de l'œuvre d'art. Le sourire demeure reflet juste et nuancé de l'identité de chaque enfant, signe fragile et permanent contre l'oubli. Animula, Vagula, Blandula, petite âme, âme tendre et flottante, qui erre sur chaque visage humain. Merci.
Cette séance va bientôt s'achever. Comme il est d'usage, nous allons entendre la fanfare de la pairie de Paul Ducas, qui clôt traditionnellement cette séance de notre académie. Elle sera interprétée par l'ensemble de cuivres du CNR sous la direction de M. François Carry. Je lève cette séance et vous invite à la réception, Sarah et Comtesse de Caen.
Ainsi s'achève la séance solennelle de rentrée de l'Académie des Beaux-Arts. Vous pouvez télécharger cette séance sur la médiathèque de Canal Académie.